7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, gros plan sur une tache de sang, aussi vieille que l'histoire de l'humanité, les règles féminines. C'est pas le sujet médical qui nous intéresse, hein, je vous le dis tout de suite chez 7 milliards de voisins, mais le tabou de société dans presque toutes les cultures. Pourquoi encore aujourd'hui une femme demande très discrètement une protection hygiénique à une collègue au travail, alors que personne ne songerait à cacher un rouleau de papier toilette? Sauf que depuis quelques temps, à la faveur des réseaux sociaux, certaines veulent en faire un sujet public qui doit justement sortir des toilettes des filles. Plusieurs livres non médicaux viennent de paraître sur le sujet et c'est tout à fait inédit. Camille Emmanuel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous publiez Sans tabou, essai intime, social et culturel sur les règles. Jack Parker, c'est votre pseudonyme pour
Absolument.
Votre blog. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez un blog Passion Menstrue, donc je crois qu'on a compris le sujet. Et votre livre, Le grand mystère des règles, c'est le sujet qui requiert l'anonymat et un prénom masculin ou pas ?
Non, c'est un pseudo que j'ai pris quand j'ai commencé à écrire et c'est pour ça que j'ai mis mon vrai nom sur la quatrième de couverture pour pouvoir commencer à l'assumer publiquement. Mais non, c'est juste ma carrière qui s'est faite sous ce pseudo, du coup j'ai continué.
Également avec nous Sandrine Nagartiga, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes blogueuse franco-tchadienne et vous avez lancé il y a quelque temps le hashtag Régler comme elle pour dénoncer le tabou des règles en Afrique qui empêche par exemple notamment des millions de jeunes filles en Afrique de se rendre à l'école plusieurs jours par mois.
Exactement.
On sera également en ligne avec Clara Matan de l'association Règles élémentaires qui est chargée de collecter des protections hygiéniques pour les femmes démunies. Ça se passe en France. Alors faut-il parler ouvertement des règles ? Où en est le tabou des règles dans votre pays? Quelles conséquences aussi sur la vie des femmes? Évidemment, les voisins, on a envie d'avoir vos appels et les voisines surtout. Dites-nous, pour les garçons, comment vous gérez cette affaire avec votre partenaire? Et puis pour les voisines, le silence, la honte ou l'humour? Parlons-en. Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. Et bien sûr, tous vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Ça poste sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Fabiola, c'est un voisin, il est à Léogane, en Haïti. C'est un sujet tabou, nous dit-il. Tout ce qui renvoie à la sexualité est tabou, surtout quand ça concerne les jeunes filles. Et quand elles ont leurs premières règles, c'est plus facile pour elles d'en parler avec leurs copines qu'avec leurs parents. Les parents n'aiment pas trop en parler, c'est très gênant pour eux. Je pense que c'est intéressant justement d'en discuter dans 7 milliards de voisins. Djibril, qui est à Caille, nous dit « Ouh, le sujet est délicat. Ma femme ne me prévient pas quand elle a ses règles. Le silence se comprend car elle veut préserver quelque chose. » Quoi, on ne sait pas. Et pendant ces moments, elle sèche la prière et le jeûne. De mon côté, je manque de courage pour lui en parler. Le mot est fort, hein. Courage, Sandrine.
Ah bah ça, c'est vraiment... Je ne m'attendais pas à ça. Le courage, c'est très très fort, effectivement, comme terme.
Fabrice est à Cotonou, au Bénin. Il nous dit « Les règles de ma copine ne sont pas périodiques. Parfois, elle les a seulement pendant une journée. J'arrive plus à suivre. Que faire ?» Alors, il y a une réponse très pragmatique de Mohamed qui est à Gagnoa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Et qui dit, bah pour moi au début c'était un sujet tabou avec ma copine, elle aimait pas en parler, puis petit à petit j'ai réussi à lui enlever ce complexe de la tête et aujourd'hui j'ai même téléchargé une application qui me permet de suivre son cycle et elle n'est plus gênée de m'en parler. Vous connaissiez ce système-là aussi pour les garçons ?
Oui, je suis une avide utilisatrice de ces applications-là et c'est vrai que je partage énormément ce que j'y vois avec mon copain.
Humour d'un voisin aussi devant tous les postes masculins. Samba qui est à Dakar et qui dit « Ouah, je vois qu'il n'y a que des hommes ici sur ce fil Facebook. Certains ont commencé à avoir des règles. » Pose-t-il la question. Le sujet changera de visage en effet quand les hommes en parleront. C'est pour ça qu'on avait aussi envie de lire vos messages. Et bien sûr, personne n'est exclu du débat. Garçon comme fille, 33 1 84 22 71 71. Oh yeah.
Milliards de voisins, c'est maintenant.
Alors, en attendant que les voisines se décident à nous appeler, je redonne le numéro de téléphone aussi pour les voisines, n'est-ce pas ? 33 1 84 22 71 71. On a envoyé Alice Milo, notre reporter, sur le sujet galère de l'année, un micro-trottoir dans les rues de Paris, pour parler des règles. Elle a terminé dans un jardin public à l'abri des oreilles indiscrètes.
Moi, je me suis retrouvée dans une situation absolument horrible. Je ne sais même pas pourquoi je raconte ça, mais je me suis retrouvée dans une situation où c'est une personne, d'ailleurs un garçon de à peine 14 ans, qui m'a tapé sur l'épaule en me disant « t'as une tache de sang sur le pantalon ». Et c'est vrai que tu te retrouves dans une situation gênante, tu peux rien faire, il y a une tache sur ton pantalon, t'as rien pour te changer, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres chez toi, mais t'es au collège, t'as pas vraiment le droit, t'appelles tes parents. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Avec l'âge, je pense qu'on apprend à vivre avec, entre guillemets. Mais quand on est jeune, moi j'ai des souvenirs étant jeune que c'était pas forcément facile, surtout quand on les a un peu plus jeunes que les autres, qu'on sait pas forcément les gérer, qu'on doit aller à la piscine, au sport ou faire des choses, c'est gênant.
C'est un tabou dans le fait qu'on les nomme jamais en tant que règles, c'est vrai. Moi au travail, je sais que le premier jour de règles, tout le monde est au courant que j'ai mes règles parce que je suis capoute. Enfin genre je ne peux pas travailler, donc je vais quand même travailler mais je suis vraiment pas efficace. Mais à chaque fois, je vais arriver et je vais leur dire que je dirais pas indisposé, mais je vais trouver un mot un peu rigolo pour dire là les gars, faut me foutre la paix parce que genre je suis pas bien aujourd'hui à cause de mes règles, mais je vais jamais prononcer le mot règle, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que en plus là où je travaille, il y a beaucoup d'hommes et je travaille dans une boutique où on vend des protections hygiéniques. Et tous mes collègues masculins appellent ça des couches pour grand-mère. Donc voilà, ça c'est assez rigolo comme truc parce que voilà, quand il faut vérifier qu'il y a bien toutes les marques de tampons, tous les trucs machin, et bah ils vont chercher les couches culottes et ils se trompent toujours parce qu'ils savent pas ce que c'est quoi. Comme ils connaissent pas, qu'ils se sont jamais intéressés, je sais pas, mon copain il m'a fait rire une fois parce qu'il savait même pas qu'il y avait un truc autocollant en dessous de la serviette, tu vois. C'est pas qu'ils ont besoin de se sentir plus concernés que ça, c'est juste qu'il faut arrêter de voir ça comme quelque chose de sale. C'est surtout ça. Et donc qui fait rire parce que ça met mal à l'aise. Et ça c'est chiant. On s'est fait des blagues plusieurs fois parce qu'on a vu une série où il y avait un mec qui s'apprêtait à coucher avec une jeune femme qui lui dit qu'elle a ses règles et donc que c'est pas possible et qui lui dit bon bah d'accord, on se voit dans 7 jours. Donc on se fait la blague assez régulièrement, en mode bon bah on se voit dans une semaine. Mais en fait c'est pas complètement ça, parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas pénétration pendant une semaine qu'on peut pas se faire des câlins ou qu'on peut pas faire des trucs quoi.
Voilà, et bien le décor est planté à réaction mesdames, Camille Emmanuel.
C'est intéressant en fait, jeune femme qui parle de son expérience d'adolescente. Puisque quand on interviewe les femmes sur leurs premières règles, on apprend beaucoup de choses. Moi, j'ai été très surprise, j'ai interrogé pas mal de femmes voilà, sur les premières fois. Ça les marque déjà à vie, que ça soit positif ou négatif. Et puis, on apprend qu'est-ce que leur famille et leurs amis leur a dit, pas seulement sur les règles, mais sur leur sexe féminin, sur leur corps, sur le fait qu'elles étaient sales, pas sales, etc. Tout le discours qu'on leur a dit à 12, 13, 14 ans, parfois 10 ans, même quand c'est plus tôt, ça va marquer ensuite sa sexualité, ça va marquer son rapport au corps, à la confiance en soi. Et tous les mois, je dis pas qu'on est forcément traumatisé par les premières règles, mais en tout cas, c'est quelque chose de très important, le discours qu'on donne par rapport aux jeunes filles. Il n'est pas question forcément de faire une énorme fête avec un gâteau surprise et du champagne parce qu'elle a ses règles, mais avoir un discours informé, positif, et un petit peu scientifique aussi, genre les règles, c'est ça, etc. C'est très très important pour l'avenir ensuite de ces jeunes femmes.
Jack Parker, donc ça c'est votre pseudonyme, mais oui. Taous Merakchi, c'est votre vrai nom de journaliste. Vous êtes rendu compte, vous avez pas mal sillonné les réseaux sociaux, notamment les forums de jeunes filles,
ouais.
En France. Hein.
Ouais.
En France, de jeunes filles qui ne sont pas issues de l'immigration, de culture étrangère, et vous êtes resté tout à fait étonné sur le degré d'ignorance en fait hein, et de honte qui frappe ces jeunes filles à propos de ce sujet-là des règles féminines.
Ouais, je suis complètement tombée de l'armoire.
Pourtant, en principe, c'est un sujet qui peut être on pourrait imaginer que c'est abordé en famille régulièrement.
Et je pense d'ailleurs que beaucoup des parents des jeunes filles dont j'ai lu les témoignages et les questionnements sont persuadés d'avoir établi un terrain fertile à la communication et au partage et tout ça, et ils se rendent pas compte à quel point ça peut être insidieux et à quel point il faut prendre les devants, parce que je pense qu'il y a plein de mères qui se disent bon bah quand elle les aura elle me le dira, et qui savent pas qu'en fait il y a beaucoup de jeunes filles qui cachent leurs premières règles à leurs parents pendant des mois et des mois.
Oui. Y compris quand on n'a pas dit à la jeune fille que c'était un tabou, que c'était un problème, quand il n'y a pas spécialement un problème de religion, ça reste quand
c'est
même,
ça,
sur le plan collectif, un tabou.
Parce qu'on oublie que tout n'est pas acquis dans la famille, il y a tout l'environnement social, et notamment à l'école, au collège, c'est quand même extraordinairement tabou, et c'est utilisé contre les filles à longueur de temps. Et du coup, peu importe ce que les parents ont dit, si leur expérience au quotidien, c'est « Ah, les règles, c'est sale », c'est ça qui va rester en tête de toute façon.
Y compris pour les filles qui auraient le malheur d'avoir des règles un petit peu plus plus tardivement, puisque on sait que la fourchette d'âge est très très large. Hein. C'est aussi la honte pour les filles qui ne les ont pas.
Ah oui, moi c'était mon cas.
Moi aussi.
Et ma mère planquait des petits tampons dans ma trousse d'école. Quand j'avais 14 ans. Et j'étais toujours persuadée qu'elle avait fait ça pour, au cas où ça arrive. Au cas où, voilà, je trouvais ça plutôt sympa, quoi. Elle est sage-femme, donc assez libre sur le corps. Et je l'ai interrogée pour ce livre, et elle m'a dit non, pas du tout. C'est parce que tu les avais pas, donc je voulais pas que tu aies la honte de pas les avoir. Donc je planquais des tampons dans ta trousse pour, au cas où, voilà, à l'école, qu'on sache que t'avais des règles. Et par rapport au tabou et tout, en effet, au collège, il y a un discours pas très positif là-dessus. Dans la famille, pas toujours, mais dans l'environnement culturel non plus.
Ouais.
Les règles sont invisibles des séries télé que regardent voilà, beaucoup les ados. Et c'est souvent des séries télé en plus qui suivent l'histoire de jeunes femmes ou de femmes pendant des générations et elles vivent 15 ans sans avoir leurs règles, elles ont la chance. Les seules fois où les règles sont présentes dans ces séries, c'est.
Bon, on filme pas non plus des gens aller aux toilettes, hein, ceci dit.
C'est,
très
oui, mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. Voilà. Ça n'a pas le même impact, enfin, les règles, ouais. que la digestion. Et en tout cas, on suit quand même des femmes qui vont parler de sexualité ou on va parler de choses très fortes dans leur intimité, mais jamais des règles. Et du coup, elles sont pas présentes dans les romans. Enfin, les règles sont totalement invisibles. Et donc, ce qui est invisible, c'est caché. On se dit, ce qui est caché, c'est sale.
Sandrine Nagartiga, vous, avec votre hashtag « Régler comme elle », est-ce que vous avez l'impression que les choses sont en train de bouger sur le continent africain ou pas ?
Bah déjà, avant de répondre à la question, ça me rassure, entre guillemets, de savoir que c'est pas un problème seulement en Afrique.
Ah non, c'est clair.
Parce que je me rappelle quand on avait lancé la campagne, j'avais eu des retours un peu négatifs me disant que je suis en train de participer à entacher l'image du continent pour certaines personnes, parce que c'est encore un sujet assez tabou. Et j'ai envie de dire que, déjà, comme ce qui me rassure, c'est qu'il y a des hommes qui prennent le lead et qui arrivent à dire, voilà, c'est pas une question seulement pour les femmes, mais c'est aussi une question des hommes. Et d'avoir leur voix avec nous, ça nous permet de dire, voilà, il y a quelque chose qui est concret, il y a un sujet qui est là, qui a besoin d'être parlé, c'est de santé publique, c'est de l'éducation, ça touche tous les plans. Et rien que ça, déjà, ça commence à montrer un peu que ça bouge, avec notamment l'essor du numérique. Alors là, on arrive à déplacer quelques montagnes.
Vous nous appelez, bien sûr, vous allez avoir la parole dans cette émission, que vous soyez fille ou garçon. D'ailleurs, personne n'est exclu, mais on aimerait bien aussi avoir des voisines. 33 1 84 22 71 71. On accueille Ndoya qui nous appelle de Dakar. Bonjour Ndoya. Est-ce que Ndoya est au téléphone avec nous ou pas ? Allô ? Ndoya, est-ce que vous êtes en ligne avec nous ? Sinon, on a aussi Yannick qui nous appelle de Kisangani. Alors Yannick, vous êtes en République démocratique du Congo, vous êtes en ligne avec nous ?
Oui, allô ?
Yannick, bonjour. Vous avez 24 ans, vous voulez nous faire
Oui, Yannick, je suis en ligne.
Ouais, vous êtes en direct, on vous écoute, vous avez 24 ans, vous êtes à Kisangani.
Je suis en ligne.
Nous vous écoutons,
oui,
Yannick.
Je suis en ligne.
Oui, nous vous écoutons.
Oui, bonjour.
Bonjour. Yannick, est-ce
que... Oui, bonjour Manuela.
Oui, on vous écoute, allez-y, vous êtes en direct. Allô, allô.
Voilà, nous sommes à Kisangani, en fait, notre information par rapport à l'émission, tout ce qui se passe, c'est par rapport à Red Bull, comme vous m'avez posé la question, vous avez dit par rapport à mon intervention, j'ai eu à dire que ça se pose un souci, le fait que les filles, elles ont toujours trouvé que c'est du tabou, juste parler du corps, c'est tout une radio mondiale comme la RFI, et c'est tout comme s'ils sont en train de s'exposer. Vous avez témoigné, parce que quand vous regardez, c'est là qu'ils ont intervenu à travers cette émission, c'est eux qui étaient mieux placés, qui devraient intervenir et donner le témoignage par rapport à la thématique. Mais vous voyez que c'est là les filles qui sont intervenues et sont vraiment minimes. Voilà, c'est pourquoi nous avons dit que les filles, il faudrait qu'elles puissent beaucoup les montrer que cette question-là n'est pas une question tabou. Il faudrait que ça soit parlé entre filles, que ça soit parlé dans la famille, mais aussi les garçons, c'est là qu'il y a des filles qui sont déjà aînées. Il faudrait que ça soit abordé avec les copains. En fait, ça, c'est que vous avez parlé.
Yannick, vous avez le sentiment que c'est aux filles, finalement, de briser le tabou ?
Allô, Manuela.
Oui, j'ai l'impression qu'Yannick ne nous entend pas dans le retour. Est-ce que Ndoya est au téléphone avec nous à Dakar ? On a pas mal de soucis techniques aujourd'hui. Oui, Yannick, vous m'entendez ? Bon, Yannick ne nous entend pas. C'est pas grave. On va donner la parole à nos voisines qui sont dans le studio. Vous avez écrit ce livre. Vous avez lancé un hashtag avec un blog. Vous avez l'impression que c'est aux filles d'abord d'aborder le sujet, de briser le tabou. Camille Emmanuel.
Oui. Alors, je pense que c'est un sujet. C'est assez ambivalent. C'est à la fois un sujet qui doit sortir des toilettes des filles. Ouais. C'est un sujet public, comme plein de sujets liés à la sexualité. L'avortement, c'est pas un sujet de femme. La parentalité, c'est pas un sujet de femme. Voilà, il y a plein de sujets liés à la vie et à la vie sexuelle et à la vie du corps qui sont pas des sujets féminins. Et les règles, c'est la même chose. Et en même temps, là où je dis c'est ambivalent, c'est quand même aux femmes. Les femmes sont assez responsables aussi, je trouve, de ce tabou. C'est-à-dire que nous-mêmes, entre nous, on n'en parle pas. Bon, je sais qu'on a une heure de grande écoute, mais je pense qu'avec mes amis, j'ai plus parlé de questions de sodomie dans les dîners que des règles, quoi. Or, les règles ont un impact beaucoup plus important dans ma vie quotidienne, sur mon humeur, sur ma santé, sur tout ça, que la sodomie que je ne pratique pas tous les mois. Donc, ce que je voulais dire, c'est que voilà, il y a des tabous, il y a des choses qui sont détabouisées par rapport à la sexualité, mais en tant que femme, on doit aussi beaucoup plus en parler, et c'est vraiment libératoire quand on arrive en plus à en parler, parce qu'on se rend compte que, bah voilà, il y en a qui ont caché des rapports à la douleur, il y en a qui ont des règles extrêmement abondantes et ça les handicape dans leur vie quotidienne, il y en a qui n'ont pas leurs règles et ça leur pose problème aussi par rapport au rapport au corps féminin. Donc, déjà en parler entre femmes et ensuite pouvoir en parler évidemment aux hommes et à tout le monde, c'est vraiment libératoire.
Et je pense que ce serait pas mal aussi d'encourager les hommes à poser des questions.
Mais alors, c'est ce qu'on fait. Vous nous appelez au 33 84 22 71 71. On a beaucoup de soucis techniques ce matin, mais normalement, on accueille Laure qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Laure. Laure, nous entendez-vous ?
Bonjour.
Oui, vous êtes en direct, on vous écoute Laure. Allô, allô.
D'accord, j'appelle. Bonjour déjà à tout le monde.
Bonjour Laure. Allez-y Laure.
Ok, c'est pour intervenir par rapport aux règles.
Oui, allez-y Laure, est-ce que vous nous entendez?
Et vous dire que... Oui, je vous entends assez bien. Malheureusement, la technique est mauvaise, donc la radio, et puis...
Allez-y Laure.
Donc, je vous disais qu'au Cameroun, les règles sont encore très, très taboues.
Laure, on a un gros souci technique, effectivement, avec notre standard téléphonique. Je crois que pour le moment, on ne va plus prendre d'appel parce qu'effectivement, on ne peut pas dialoguer du tout avec nos auditeurs et c'est un gros souci. Je vous redonne le numéro de téléphone pour qu'on règle le problème et que vous puissiez nous appeler, j'espère, après le flash 33 1 84 22 71 71. J'aimerais qu'on entende juste ce qui se dit du côté de la publicité et du marketing concernant ce sujet.
Madame Bertrand, est-il vrai que l'on doit rester chez soi lorsque l'on a ses règles ?
Non, mais si vous sortez, faites en sorte de ne pas vous aventurer trop loin et évitez d'attirer l'attention sur vous. Il est préférable de rester proche de chez vous, là où vous pouvez changer et jeter discrètement votre serviette.
Mais qu'est-ce que t'as de dandiner comme ça ? T'as mis un slip en toile de jute ?
Non, c'est mon tampon, il me gêne.
Bah, t'as qu'à en changer.
Qui a dit qu'on ne pouvait pas se sentir glamour quand on a ses règles ? Pourquoi ne pas être chic en toutes circonstances?
Ça là, Tania.
Ça, c'est pas Vania?
Non, c'est le faux Vania.
C'est la vraie Vania.
Oui. Regarde. Ah. Tu vois, il est protégé avec deux ficelles. Uh-huh. Et puis, la bande adhésive tient. Ça ne laisse rien passer. Mmh. Alors que ça là, ce faux Vania là, ça donne coursa en bas là-bas.
Mais je comprends pourquoi ma fille se grattait beaucoup là. En bas d'elle était pourrie. Gars, c'est coursa.
Larissa, ça là. Je ne veux plus que tu utilises, t'as compris ? C'est le faux Vanier. Tiens.
Voilà, il y a beaucoup à dire sur la publicité, sur le discours marketing, sur le fameux liquide bleu qui représente l'arrivée des règles à la télévision dans les publicités. Bien sûr, vous restez avec nous. On se retrouve juste après le flash. Vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. On parle des règles féminines aujourd'hui, peut-être de la fin du silence sur le sujet dans nos sociétés, ou du moins la fin de ces expressions bizarres dans toutes les langues. En français, on dit les Anglais débarquent, le drapeau japonais est levé en Finlande, je suis tombée aux mains des communistes aux États-Unis, ça c'est pour le rouge, ou encore c'est la semaine des fraises en Allemagne, et j'ai le steak qui décongèle, ça c'est en Espagne. Jack Parker, vous publiez Le grand mystère des règles chez Flammarion, et puis également Camille Emmanuel est avec nous, Sans tabou, essai intime, social et culturel sur les règles, aux éditions La Musardine. Et Sandrine Nagertiga, vous êtes une blogueuse franco-tchadienne, réglée comme elle, c'est le hashtag sur Twitter, il y a aussi une page Facebook pour dénoncer le tabou des règles en Afrique. On a bien compris en première partie d'émission que le tabou, il est partout, il n'est pas du tout spécifiquement en Afrique, à commencer parce qu'on a entendu juste avant la fin de la première partie de l'émission, juste avant le flash, ces fameuses publicités qu'on entend encore aujourd'hui. Vous, Camille Emmanuel, il y a beaucoup à dire sur la publicité parce que la publicité n'évolue pas énormément en fait sur la façon de commercialiser les fameuses protections intimes.
Bah, depuis les années 80, ça n'a pas beaucoup évolué. Déjà, fin 80, début 90, il y a eu un changement, c'est qu'on a vu le produit. Avant, on ne le voyait même pas. Avant, on voyait des femmes qui faisaient du vélo, du cheval, qui couraient sur la plage et avec la musique de Julien Clerc en fond. Mais on ne voyait même pas le produit. Et fin 80, début 90, enfin, on a vu une serviette avec le fameux liquide bleu. Donc c'est bien connu, on est toutes des schtroumpfettes. Mais bon, voilà, ça c'est... Moi, j'ai rien contre le liquide bleu parce qu'après tout, la publicité est là pour... On va dire embellir et puis montrer une vision différente de la
réalité. On ne commercialise pas non plus des couches pour bébé en montrant des excréments.
Non, hein, voilà.
Non, c'est plus les corporels ne sont pas représentés.
Non, c'est pas le liquide bleu qui me dérange. Après tout, pourquoi pas. C'est comme quand on voit un plat fait dans la publicité. Le plat toujours réussi, on le fait chez soi et c'est complètement raté. La publicité embellit et donne une vision édulcorée de la réalité. Moi, c'est plus le discours qu'il y a derrière dans la publicité. C'est ce que j'appelle le marketing de la honte. C'est-à-dire qu'à force de répéter aux jeunes filles « attention à la tâche, enfin, grâce à ce produit, vous n'allez pas faire de tâche, grâce à ce produit, vous allez sentir bon », ça veut dire qu'en fait, sinon, non. On fait notamment croire que les règles sentent mauvais, ce qui est faux. À partir du moment où on change de protection hygiénique toutes les 4 heures, enfin, ça dépend de son flux, mais voilà, on ne sent pas. Moi, j'ai été élevée par des femmes et je fréquente des femmes tous les jours, j'ai jamais senti une femme qui avait ses règles. Je me suis jamais dit, genre, dis donc, Martine, elle n'a pas changé son tampon. Mais la publicité, il y a notamment une publicité qui est sortie l'année dernière, qui, pour une serviette que je ne citerai pas, mais qui dirait, grâce à ce tel produit, je peux enfin être proche des gens. C'est terrible quand même le message derrière. Ça veut dire que sinon, on ne peut pas être proche et on ne peut pas sortir dans la rue et prendre le bus. Donc en fait, la publicité est problématique dans le sens où voilà, elle crée une espèce d'angoisse sur la tâche et sur l'odeur, alors que c'est des angoisses qui n'ont pas lieu d'être.
Ouais, et en fait, vous le dites bien, vous, Jack Parker, alias Taous Merakchi, pour votre livre Le grand mystère des règles, vous dites encore aujourd'hui, la seule chose qu'on autorise comme réaction pour une femme, c'est le silence.
Ouais. Il ne faut pas le dire, il ne faut pas le montrer. Dans les toilettes, on est toutes traumatisées à l'idée de faire du bruit en déballant notre protection, alors qu'on est logiquement entouré de personnes qui savent très bien ce qui se passe, qu'on n'est pas en train de manger un Snickers dans les toilettes. Hein. ça n'a pas de grand secret, mais il faut toujours cacher à soi-même d'abord, pour commencer, puis aux autres. Et nous-mêmes, on ne veut pas voir à quoi ça ressemble. On essaye de chasser vite dans la chasse d'eau, dans la poubelle, courir sous la douche. Enfin, on ne supporte pas l'idée d'être confronté à son propre fluide corporel, alors que c'est tout ce qu'il y a de plus naturel et qu'il y en a des bien plus dégueulasses que ça. Enfin, le sang menstruel n'a rien de traumatisant, c'est comme une coupure sur un doigt, c'est comme, oui, il change d'aspect selon les cycles et selon les personnes, mais c'est pas, c'est pas un truc qui pue la mort, qui est corrosif,
C'est pas dangereux.
Voilà, ouais. Ça fait de mal à personne, ouais. On n'en a pas des litres qui jaillissent en geyser, ça n'a rien de traumatisant en réalité, on en a fait tout un truc... Et on a transformé ça en légende urbaine, en fait. On l'a tellement mystifié que du coup, les gens se figurent quelque chose de monstrueux et de mystique. Alors que non, c'est une petite cuillère à soupe dans la culotte et rien de plus.
Comment
quoi.
Ça réagit sur le hashtag Sandrine Nagertiga qui dénonce le tabou des règles?
Bah, ça réagit plutôt bien pour l'instant, même si on a des personnes, comme je disais, qui sont assez... comment dire, qui disent que non, il faut pas en parler parce que c'est encore un sujet très 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 tabou. Et moi, ce qui m'a quand même un peu choquée, ce sont les femmes elles-mêmes qui disent que non, il faut pas en parler, surtout comme ça de façon publique, et qui disent qu'il y a une femme même qui avait dit que vous ne pensez pas que pour nous femmes, c'est un moyen de ne justement pas faire l'amour avec, avec notre, ouais. notre conjoint. C'est peut-être aussi, elle disait que c'était un...
C'est ce qui revient le plus souvent, hein, c'est
oui.
vrai. Hein,
sur, mais, oui.
Effectivement, est-ce que les couples peuvent faire l'amour ou pas? Alors, c'est évidemment un sujet qui est abordé d'un point de vue médical, où il n'y a aucune contre-indication médicale, mais ensuite, effectivement, ça pose aussi le problème du dégoût des garçons. Vous disiez que les filles sont programmées pour être honteuses du fait d'une éducation, d'un certain type d'éducation. Est-ce que les hommes sont aussi programmés par leur éducation pour être gênés par ce problème-là ou pas, d'ailleurs, Camille Emmanuel?
Ça dépend de leur enfance et de leur adolescence. Typiquement, un homme qui n'a pas eu de sœur, ou voilà, il va découvrir... Un homme hétérosexuel, bien sûr, il va découvrir en vivant avec une femme, tout d'un coup, tous les mois, voilà, le truc d'aller acheter, de planquer les tampons dans la salle de bain, parce qu'on les planque, alors que bon, on planque pas de la crème antiride. Et donc, ça dépend de tout ça. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'hommes qui ne sont pas du tout dégoûtés, parce que, comme disait Jack, ce ne sont pas des hectolitres de sang, et on peut faire l'amour pendant les règles, ça tâche un petit peu les draps, mais ce n'est pas non plus catastrophique. Mais c'est souvent, il y a pas mal de femmes qui supposent que les hommes sont dégoûtés. Ouais. Et donc, qui n'ont même jamais abordé la question avec leur compagnon pendant toute une vie sexuelle, en se disant « Ah bah non, les hommes trouvent ça dégoûtant. » Mais ils n'ont jamais posé la question.
C'est un sujet qui serait plus tabou que la sexualité elle-même, finalement.
Ah oui, complètement.
Très clairement. Plus, oui. Ouais. Nous accueillons un enseignant qui nous appelle de Nouakchott. Si la technique est réglée, 33 1 84 22 71 71. Bonjour, oui. Bouna. Bouna, vous êtes directeur d'école à Nouakchott. On vous écoute.
Oui. J'ai eu à aider des filles qui ont vu leurs règles pour la première fois en classe. Et ça a été pour moi l'occasion de le dire que ce n'est pas une anomalie, c'est plutôt normal d'avoir ces règles. Et j'ai essayé de démystifier le fait, parce qu'il y a des gens qui pensent que l'islam, il cache des choses. Et la pudeur en islam, c'est de faire des choses qui sont interdites par notre religion. Donc, les filles qui ont eu honte au début, maintenant, et se sont familiarisées avec le fait, et on en discute même avec les garçons, et toutes les règles de notre religion nous disent que pour prier, il faut être propre. Il y a un rituel de bain qu'il faut faire après les rapports sexuels ou après avoir eu ces règles. Et si on ne connaît pas les règles, on ne sait pas ce que c'est que jouir, avoir des rapports sexuels, on ne peut pas faire le bain rituel. Donc, pour être un bon musulman, il faut savoir que les règles existent, il faut savoir que l'éjaculation existe. Et dans notre religion, le prophète a eu à entretenir des femmes sur le fait. Et elles ont discuté d'une manière très ouverte. Peut-être que c'est notre tradition qui nous empêche d'en parler, mais maintenant, avec mes filles, ça va.
Maintenant, c'est ça. Il y a un débat public dans la classe. Merci beaucoup, Bouna, de nous avoir appelé à Nouakchott. Sandrine.
Oui, la question de l'impureté est très mise en avant, notamment en Afrique, en lien avec les règles. Je prends par exemple de ce que Bouna a dit aussi, le côté cuisine. Moi, dans ma tradition paternelle, une femme, par exemple, qui a des règles, il y a une sauce qu'elle ne peut pas préparer, parce que c'est vu comme impur. C'est quelque chose qui est très traditionnel. Donc, il y a toute cette question-là qui fait que la fille ou la femme en question se dit que voilà, moi, ça va, j'ai grandi avec ça. On m'a toujours dit que c'était quelque chose d'impur, de sale, et ça reste dans les esprits. Et je trouve que c'est très très intéressant que Bouna, c'est bravo à vous, d'avoir justement casser
ouais,
cela.
Un instituteur, un homme instituteur, qui lance le débat en classe.
Et de confession, ce que j'ai compris, musulmane.
Tout à fait.
Quand
tout
même,
à fait.
C'est vraiment exceptionnel. C'est donc bravo et continuez comme ça. Et on a besoin de beaucoup de Bouna sur le continent africain pour pouvoir casser cet tabou.
Alors, on a énormément de messages. Hein. On a Aïda qui est à Dakar qui dit « Moi, la première fois que j'ai eu mes règles à 14 ans, j'ai eu peur. On ne m'en avait jamais parlé. Ma mère ne m'a rien expliqué. J'ai tout appris à l'école grâce à mon prof de SVT, donc un homme. En quatrième, à 15 ans, ça faisait un an que j'avais mes règles. On se dit qu'il y a vraiment un problème. Yamour nous appelle de Londres au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Yamour.
Bonjour Emmanuel.
Nous vous écoutons.
Oui, alors déjà, nous avons beaucoup parlé du tabou linguistique, bien sûr, en France, cette question des ragnagnas, ces petites expressions un peu bêtes, mais comme je suis franco-turque, je vois aussi l'aspect en Turquie, et en Turquie, on dit justement que c'est une maladie, que tu es malade, alors que moi, j'insiste, je dis, ben non, je suis en très bonne santé, tout va bien, c'est pas une maladie. Et c'est lié aussi à tout ce tabou linguistique est lié au dégoût. Moi, je me souviens quand nous, on était ados et qu'on racontait nos règles aux garçons et on nous disait mais non, mais ne nous racontez pas ça, ça nous dégoûte, c'est terrible. Mais c'est aussi, c'est mes amis aussi. Par exemple, moi, j'ai une amie qui, après ses règles, se sentait obligée de s'épiler entièrement parce qu'elle se sentait sale. Et ça affecte aussi justement la sexualité. On en a parlé, enfin, les règles dans les sexes, il y a des hommes qui refusent ça catégoriquement et je trouve que c'est un peu immature, hein, personnellement. Et aussi, on a vu les tabous dans les réseaux sociaux quand des images ont été censurées parce qu'il y avait des femmes avec des règles. Mais les réseaux sociaux ont justement...
Notamment sur Instagram.
Oui, voilà. Et il y a cet élan positif à travers les réseaux sociaux aussi. Par exemple, on a ouvert le débat sur l'industrie des serviettes, des tampons, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans nos tampons. On ne sait pas... Par exemple, on refuse de promouvoir la COP. Je ne sais pas comment ça se dit en français.
Oui, c'est une coupe menstruelle qui est réutilisable.
Voilà, la coupe menstruelle, par exemple. Ça, ce n'est pas promu pour servir l'industrie. Mais donc, il se passe des choses et on change les mentalités. Et à un moment, il y a une des présentatrices sur le plateau qui a dit qu'on ne va quand même pas commencer à célébrer. Mais moi, je dirais que justement, oui, il faut commencer à célébrer les moments, ces changements dans la vie d'une femme.
Vous avez reçu un cadeau, je crois. Vous avez reçu un cadeau pour vos premières règles.
Ce
n'est pas effectivement si courant que ça. Et vous avez dit au standard quelque chose que je trouve intéressant. Le sang des règles, c'est le seul sang qui ne vient pas de la violence.
Oui. Et c'est celui qui vous dégoûte le plus. C'est une image d'un graffiti de rue en espagnol qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment.
Merci beaucoup de nous avoir appelé, Yamour. Je voudrais aussi dire, à propos de l'intervention de Bouna qui nous appelait de Nouakchott, hein, ça c'est pour vous, Sandrine, avec le hashtag Régler comme elle, que il y a une étude qui a été menée il y a quelque temps en Ouganda et qui concerne évidemment d'autres pays sur le continent africain, qui a été menée par des organisations internationales. La moitié des écolières qui déclarent rater entre 1 et 3 jours d'école chaque mois, hein, ce qui revient à une absence de 8 à 24 jours sur l'année, c'est 11% du programme scolaire. Faute d'équipement sanitaire, faute de protection hygiénique aussi, qui coûte excessivement cher encore sur le continent africain.
Exactement, donc c'est pour cela qu'il y a il y a des startups sociales qui naissent, donc notamment j'ai en tête Camerpad qui est un de nos partenaires principaux sur la campagne, donc une jeune femme d'origine camerounaise qui a été décorée d'ailleurs lors du Hub Africa et qui a décidé de créer des serviettes lavables 100% fait main en coton, et en plus ça a vraiment une identité économie sociale et solidaire parce qu'elle fait travailler des femmes de la région qui fabriquent ces serviettes là, donc c'est vendu 2000 francs. Donc c'est pas trop cher à ce niveau-là, sachant que c'est réutilisable.
CFA.
Oui, 2000 francs CFA, excusez-moi. Donc c'est réutilisable, c'est lavable, et ce qui est en plus de ça, c'est qu'elle donne vraiment une éducation sexuelle aux enfants. Donc elle accompagne ces filles-là à dire, voilà, il y a le produit, mais comment est-ce qu'on l'utilise, pourquoi est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on passe cette étape de fille à femme, si je peux dire ça comme ça. Et ce sont vraiment des solutions que je trouve très importantes à développer, à multiplier en Afrique pour aider ces femmes-là et qui peuvent répondre à la question de la cherté des produits.
Pour reprendre le cas de l'Ouganda, ça avait été une promesse de campagne d'ailleurs du président Museveni de distribuer des protections hygiéniques dans les écoles, ça n'a pas été réalisé. L'universitaire militante féministe ougandaise Stella Nyanzi a été emprisonnée, c'est devenu une voie de premier plan dans une campagne de collecte de fonds pour l'achat de protections hygiéniques pour les femmes et pour les filles pauvres en Ouganda. l'Ouganda, c'est un sujet qui est plus politique qu'il n'y paraît finalement.
C'est clairement, non, clairement. Mais dans tous les pays, à différents degrés évidemment. Mais pareil, tout ce qui est en Inde, au Népal, dans beaucoup de pays d'Asie, il y a encore cette tradition du chaupadi, qui sont les huttes menstruelles, où les femmes sont obligées de s'isoler pendant une semaine, quelle que soit la durée de leur cycle, pour le coup. C'est vraiment pour s'assurer qu'elles soient bien, bien pures quand elles reviennent, et qui cause la mort de plusieurs jeunes femmes depuis des années. Effectivement, il y a toutes ces histoires en Ouganda, mais il y a beaucoup d'autres pays d'Afrique subsaharienne où il y a ces questions-là. Il y a beaucoup d'associations comme celle dont tu parlais tout à l'heure, qui naissent justement pour faire naître une espèce de petit commerce local, parce que il n'y a que comme ça qu'on va réussir à régler la question. Il faut que des gens prennent cette initiative sur le terrain et que ça puisse enfin faire son chemin dans les esprits des gens, mais d'abord pour la santé des filles, quoi. C'est quand même le plus important.
Et grâce aux réseaux sociaux notamment, parce qu'on commence à en parler.
Oui, oui, et juste pour rebondir par rapport aux actions, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'ONG qui s'occupent de situations mondiales. Et aux États-Unis aussi, ils se sont rendus compte que toutes les femmes SDF, enfin, on n'en parle pas, mais voilà, on va donner une pièce, on va donner à manger, etc. On ne va pas donner des tampons à une femme qui fait la manche. Et pourtant, c'est un vrai problème sanitaire. Ouais. Et donc, il y a une association qui s'appelle Distributing Dignity. Et l'idée, c'est quoi? C'est dans les centres d'accueil de mettre à disposition des serviettes et des tampons aussi pour les femmes SDF. Les femmes en prison aussi, c'est compliqué.
Alors justement, on va voir en ligne, je ne sais pas si on l'a déjà en ligne ou pas, Clara Matan de l'association Règles élémentaires. On est en train de l'appeler parce qu'elle est chargée de collecter des protections hygiéniques pour les femmes démunies en France. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On se retrouve juste après. Vous allez écouter. Les artistes, eux aussi, se mettent à parler du sujet.
Lundi, c'est douloureux. Mardi, c'est déjà mieux. Mais bof, mercredi, j'ai pas le moral. Jeudi, ça devient normal. Vendredi, j'endure encore. Samedi, un petit effort. Dimanche, c'est terminé. Je vais enfin pouvoir commencer. Tu dis que tu vis l'enfer. Mercredi, mais qu'est-ce qu'on va faire?
Geneviève Morissette, elle est québécoise et elle chante Crise de nerfs. Ça vous fait bien rigoler.
Ça vous plaît, les filles?
Ça va devenir notre hymne.
Ben les artistes aussi se mettent à parler du sujet, c'est très clair. Non
ouais. Oui, vous parliez tout à l'heure des réseaux sociaux. Depuis 3 ans, moi je date de 2014, un vrai mouvement d'artistes, d'activistes, de personnalités publiques qui parlent de plein de façons différentes des règles. Ça va être, on avait une auditrice londonienne, mais il y a une artiste qui s'appelle Kiran Gandhi qui a couru le marathon de Londres sans protection, donc en laissant couler un filet de sang. Et l'idée de son acte, c'était de dire « moi, je ne souffre pas de mes règles, moi, voilà, mais énormément de femmes dans le monde, c'est le cas ». Et du coup, j'attire l'attention sur ce phénomène. C'est aussi la réalisatrice de la série Girls qui souffre d'endométriose et qui, sur Instagram, fait beaucoup de posts là-dessus.
Est-ce qu'il y a la chanteuse Imani aussi, qui s'est beaucoup engagée sur l'endométriose.
Ouais, mais est-ce qu'il faut dénoncer... Alors, l'endométriose, c'est un autre problème, parce que là, c'est une pathologie. Mais est-ce qu'il faut dénoncer le tabou avec des actes provocants?
Pourquoi pas? Moi, je pense qu'il faut tout, en fait. C'est chacun le fait à son échelle, à différents degrés. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire. C'est chacun le fait selon ses inclinaisons, selon ses envies, ses inspirations. Il y a des choses avec lesquelles on ne sera pas d'accord. Il y a des choses qui nous toucheront plus ou moins. Mais je trouve ça vraiment hyper important qu'il y ait de la variété, justement, et qu'il n'y ait pas une espèce de, d'unification de, du vocabulaire employé, des actes commis.
C'est presque, pardon. Oui, Sandrine Lagartiga.
Bah, j'ai envie de dire que oui, après, comme tu disais, c'est que chacun le fait, dans tous les cas, tout le monde n'est pas d'accord. Donc, que vous fassiez quelque chose ou pas, il y aura toujours des gens pour, des gens contre. Après, c'est vrai que choquer comme ça, c'est... moi, je parle notamment pour le côté Afrique, ça peut aussi avoir des répercussions négatives. Donc, dans tous les cas, il faut d'abord en parler, que ce soit de la manière douce ou pas, mais je préfère d'abord, moi, personnellement, la manière douce. Dire que voilà, il y a un problème qui existe, en parlons-en, mettez en avant, dites vos expériences et tout ça. Et après, s'il faut choquer, si on voit que ça ne fait pas, oui, allons-y au fight, choquons, peut-être pour essayer d'éveiller un peu plus la conscience collective.
C'est ça, en fait, il faut adapter son discours à son audience.
Et oui, voilà, exactement, et la seule localité aussi.
Alors, on est avec Clara Matin au téléphone de l'association Règles élémentaires. Bonjour Clara.
Bonjour.
Vous êtes chargée de collecter des protections hygiéniques pour les femmes démunies en France, sans domicile fixe en général. Comment est née cette initiative ?
Alors, l'association, elle est née en novembre 2015 à Sciences Po. C'est Tara Eusé qui a créé l'association. Et donc, en fait, elle était en Angleterre, où il y a déjà ce type d'initiatives qui sont prises. Et quand elle est rentrée en France, elle s'est rendue compte que ça n'existait pas du tout, mais qu'il y avait un besoin, que les associations, elles ont aucun stock. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel on ne pense pas. Comme vous le disiez tout à l'heure, donc on pense à donner de la nourriture, des vêtements, mais pas du tout ce genre de produits. Donc, la première collecte est née comme ça, à Sciences Po. Et ça a pris un essor, ça a eu un grand succès. Et du coup, ça a continué. Donc là, ça fait 2 ans qu'on organise des collectes très régulièrement.
L'association demande, puisque aujourd'hui il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour demander la suppression des taxes sur les protections hygiéniques. C'est un débat qu'on retrouve dans d'autres pays. Il y a des pays qui ont complètement supprimé ces taxes, cette TVA. D'autres qui l'ont partiellement supprimée. Est-ce que c'est un sujet que vous abordez aussi?
Oui, c'est sûr que nous, on aimerait bien que la taxe, qu'il n'y ait pas de taxe. Après, nous, on n'a pas une vocation politique, donc on en a parlé, on a relayé l'information, mais après, c'est sûr que nous, on aimerait bien que ça n'existe plus, mais on n'a pas fait d'action spéciale par rapport à ça.
Ouais. En tout cas, c'est bien de relayer cette distribution-là, qui est, c'est vrai, souvent oubliée des associations caritatives classiques, qui ont elles aussi, bien sûr, toute leur utilité. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Vous, c'est un sujet que vous abordez, sur la fameuse suppression des taxes tampons.
Oui, mais ça, pour le coup, c'est une victoire que nous, on a remportée en France l'année dernière, et c'est passé en janvier dernier, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça y est, nous, on s'en est enfin débarrassé de cette taxe tampon. Maintenant, il y a toujours la question de la taxe rose, qui est une taxe qui est appliquée aux produits féminins. Donc dès que c'est un peu rose et girly, c'est plus cher que les autres. Mais ça, c'est un autre débat encore.
C'est pas une taxe institutionnelle, c'est plutôt une grille tarifaire.
Exactement.
Le marketing,
mais, voilà. Mais pour ce qui est de la TVA, oui, ça y est, on a enfin reconnu les protections périodiques comme des produits de première nécessité et non des produits de luxe en France. Mais il y a encore d'autres pays qui se battent toujours pour que ce soit le cas chez eux, quoi.
Sandrine Nagartiga, sur le continent africain, c'est quand même des produits qui restent extrêmement chers aujourd'hui.
Très 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 chers, surtout de qualité. C'est difficile déjà d'avoir des produits d'excellente qualité. Donc les femmes ont recours parfois à des solutions, j'ai envie de dire, à portée de main. Donc ça va être des bouts de tissu de pagne qu'on va utiliser et qu'on va changer tout le temps. Donc interdiction de pouvoir sortir parce qu'il faut se changer plusieurs fois. Des fois, c'est vraiment... c'est encore un gros sujet et y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là.
C'est ça, c'est que en Afrique, le sujet n'est pas seulement un tabou social, un tabou religieux, mais aussi un problème tout simplement matériel qui fait que même s'il n'y avait pas le tabou social, même s'il n'y avait pas le tabou religieux, les filles sont de fait exclues parce qu'elles n'ont pas accès à la protection matérielle, à ces fameuses protections féminines. Et donc, quand on ne peut pas se protéger, effectivement, on reste dans son lit, quoi.
Tout à fait.
Et exactement. On ne va pas à l'école,
tout à fait,
notamment.
Tout à fait.
On a le témoignage d'une jeune femme à l'université aussi qui nous a dit pendant longtemps longtemps, j'allais pas en cours à l'université, hein, à Dakar. Et puis, il y a aussi une question posée par Moussa Ketaniamé. Il dit, je m'inquiète beaucoup pour les jeunes filles. Comment les accompagner? C'est mon souci en tant que père. C'est une jolie question, Camille Emmanuel.
Je l'aborde dans mon livre, le fait que justement, ça ne doit pas être un sujet que pour les femmes, notamment parce que les pères d'aujourd'hui, ils passent du temps avec leurs filles. Ça peut être des pères divorcés, des pères séparés, les pères d'aujourd'hui sont beaucoup plus proches quand même des jeunes femmes.
Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil à Moussa? Comment en parler? C'est pas facile pour quand on est un homme.
Déjà qu'il se renseigne lui, parce que j'ai un ami qui s'est retrouvé piégé il y a un mois. Avec sa fille de 10 ans, donc elle n'a pas encore ses règles, mais qui va peut-être toutes ses copines, enfin on a les règles de plus en plus tôt en plus aujourd'hui, qui a dit « Papa, c'est quoi les règles ?» Alors il a commencé à expliquer le cycle, il a fait « Non, non, c'est quoi? Il y a quoi dans le sang ?» Parce que c'est vrai que c'est du sang avec souvent des bouts d'endométriose, enfin voilà. Et il s'est retrouvé bête, à aller sur Google et tout, et a dit genre « Non, laisse tomber, je demanderai à maman. » Mais du coup, voilà, le premier truc pour qu'on ait un père et qu'on ait une jeune fille de 10 ans, c'est d'aller acheter nos livres, mais même ça. Aller sur Internet, regarder des choses, se renseigner, pouvoir donner les réponses à son enfant sur ce que c'est vraiment, sur l'impact, sur comment ça change, combien de temps ça dure, etc. Et puis ensuite, expliquer qu'il y a des changements aussi par rapport aux hormones, mais que les hommes aussi, ils ont des hormones. Les hommes, des fois, ils ont des pics de testostérone, hein, c'est connu, ils vont être hyper vénères en voiture, on ne sait pas pourquoi.
Tout ça, c'est cours de SVT, donc Taous, Meraki.
Oui. Non, moi, je pense que c'est, oui, effectivement, déjà, il faut avoir des bases quand on est père parce que ça va finir par arriver et que j'entends encore trop souvent des histoires de pères...
Donc ne pas renvoyer, va demander à ta maman.
Non, justement, j'entends encore trop d'histoires comme ça de pères qui se retrouvent seuls avec leur fille le jour où elle a ses premières règles et qui se mettent en quête de la première femme venue pour pouvoir lui jeter dans les bras en disant « Attention, je vais te mettre dans les bras de quelqu'un qui sait ». Il vaut mieux savoir avant ce qui va se passer. Après, comme les règles changent d'une personne à l'autre, de toute façon, il va falloir faire des trucs sur le tas et c'est là que ça devient intéressant, je pense, de le faire à deux.
Voilà,
alors, de lire des choses à deux, de se renseigner à deux et d'en parler.
Exactement. Et pour terminer, je vous lis le message de Dieudonné qui poste de République démocratique du Congo. « Conseil aux autres garçons, avec ma copine, on n'a pas de tabou. C'est moi qui achète les tampons qui comptent son cycle menstruel. Il ne faut pas rendre ce sujet tabou, il faut en parler. » C'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Merci à vous Sandrine Nagertiga, Camille Emmanuel, Jack Parker. Tous les ouvrages sont à retrouver sur notre page.